Et justement, le combat pour la justice climatique et pour sauver le climat, bah, il date pas d'hier. Et c'est ce qu'on va un peu évoquer avec Hervé Kempf. Allô Hervé.
Oui, bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de reporter.net et puis auteur de bouquins comme le livre Comment les riches, détruisent la planète. On vient d'entendre avec Barnabé un témoignage sur les manifestations qu'il y a eu à Paris pour changement climatique, contre le changement climatique, Alternative à Gonesse. Et tout ça se déroule dans un contexte un peu important avec l'ouverture des premières discussions en vue de la conférence sur le climat de Paris de 2015. Alors, est-ce que vous pouvez nous replanter un peu le décor?
Eh bien, donc, aujourd'hui, mardi 23 septembre, il y a une grande réunion à l'ONU, aux Nations Unies à New York, où il y a plus de 120 chefs d'État et des centaines de personnes, d'entreprises, de citoyens, de gens, de fonctionnaires, de diplomates réunis aux Nations Unies pour commencer à discuter dans la perspective de la prochaine grande conférence sur le climat qui aura lieu en décembre 2015 au Bourget près de Paris. Alors pourquoi est-ce que les Nations Unies et particulièrement son secrétaire général Ban Ki-moon s'y prennent aussitôt à l'avance? Ben parce que tout le monde, aussi bien les diplomates que les politiques, restent sur le très mauvais souvenir de Copenhague. Vous vous rappelez peut-être qu'à la fin 2009, il y avait eu une grande conférence sur le climat qui, après, malgré tout un enthousiasme extrêmement grand pendant toute l'année, un rassemblement important, des centaines de... En tout cas, au Danemark, plus de 100 000 personnes qui avaient manifesté dans la rue. Et puis, patatras, qu'est-ce qui s'était passé? Eh ben, un échec à peu près total, pas tout à fait total, mais enfin extrêmement grand, énormément de déceptions, et l'enlisement de la négociation climatique pendant 3 ou 4 ans. Et donc là... la question climatique reste pourtant toujours aussi importante et elle s'est même aggravée. Les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui ont été rendus entre la fin 2013 et le début de cette année, ont montré que tous les signaux sur le réchauffement climatique et le changement climatique s'approfondissaient et s'aggravaient. Il y a aussi de plus en plus de manifestations, sécheresses, tornades, un temps totalement déglingué, des inondations, etc., qui font de plus en plus penser au gouvernement que oui, il y a vraiment un problème et qu'il faut le prendre, sinon à bras-le-corps, en tout cas tout à fait au sérieux.
Vous avez justement...
Les Nations Unies ont lancé cette première round de négociation, en quelque sorte, pour ne pas être au pied du mur et avoir toute l'année pour essayer d'arriver à un vrai résultat.
Vous avez justement publié sur Reporter aujourd'hui un entretien avec Hervé Le Treut. Il est climatologue et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et effectivement, son constat est un peu, comme d'habitude, on va s'y habituer. Malheureusement, c'est alarmant. C'est que les chiffres se confirment. Le problème s'aggrave. Et maintenant, il ne faut plus diviser par deux, mais par trois les émissions mondiales de gaz à effet de serre pour parvenir à contenir le réchauffement global à 2%. Deux degrés, pardon.
Ouais. Non, bah c'est effectivement tout à fait stupéfiant quand on avait... Bon, Hervé Le Treut, c'est un des très bons climatologues français et même internationaux. Hein, il participe au GIEC et il en a été longtemps un des principaux rédacteurs. C'est un modélisateur. Et il se trouve pour moi, c'est un petit peu un témoin en quelque sorte, parce que on se connaît depuis longtemps. Je l'ai interviewé plusieurs fois au long des années. C'est un homme en même temps que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très prudent, il n'est pas du tout sur le mode catastrophiste, mais au long des années, si je reprenais toutes les interviews que j'ai faites de lui, à chaque fois, c'était un ton un peu plus inquiet, un peu plus alarmé. Et là, effectivement, on a été le voir parce qu'il dit, comme vous l'avez dit, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial de 70%, il faut en fait les diviser par 3 d'ici 2050, si on veut rester avec un climat à peu près équilibré et qui serait en dessous d'un réchauffement de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Alors 2 degrés, ça paraît rien, mais c'est déjà extrêmement important. Et donc si on allait au-delà de ce seuil, les conséquences en seraient vraiment très vraisemblablement un déséquilibre très grand du climat qu'on ne pourrait pas récupérer. Et du coup, des déchirements, des déséquilibres sociaux, des désagrégations d'économie extrêmement importantes. Et donc, il y a encore 10 ans, on disait il faudra diviser par 2 l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? En 10 ans, et ça c'est le grand paradoxe de la situation, on n'a jamais parlé autant de climat. Et pourtant, depuis 10, 15, 20 ans, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter de manière importante, ce qui fait que maintenant, l'objectif à atteindre est devenu beaucoup plus exigeant. Et quand on dit diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour l'ensemble de la planète.
D'accord.
Mais si on raisonne pour les pays riches, comme la France, comme les pays européens, et qu'on accepte l'idée que tous les pays doivent avoir un niveau d'émission par habitant à peu près équivalent, ben ça veut dire que nous, il faut qu'on réduise les émissions de 80 à 90%.
Donc c'est vraiment énorme. Et du coup, face à ce défi qui nous tombe dessus, qui parfois même nous rend complètement atones, à dire de toute façon c'est foutu. Alors on a des réponses de milliardaires américains qui veulent, eux, changer le climat à leur manière, avec de la géo-ingénierie, qui veulent balancer des produits dans les nuages pour ralentir le rayonnement, qui veulent faire manipuler le climat pour que le climat reste concevable. Mais quelles sont les réponses qu'on peut attendre du côté des citoyens pour faire face à ce changement climatique qui nous arrive droit dessus et qui est même déjà là?
Les réponses, moi je ne sais pas dire autrement que finalement il faut commencer à vivre avec l'idée d'un profond changement dans les façons de vivre et dans les modes de consommation. Et c'est très difficile parce que fondamentalement, réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a trois solutions. Soit on continue comme avant, tout ça finalement, c'est pas très important, ça sera dans 30 ans, et on change rien, et en gros, on va dans le mur, à moins de considérer que tous les scientifiques racontent des bêtises, voilà. La deuxième solution, c'est celle que vous avez évoquée, c'est de dire la technologie va nous sauver de tout, on va mettre des éoliennes partout, il y aura des panneaux solaires, il y aura la géothermie, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura la géo-ingénierie, et ça, c'est un monde totalement industrialisé, qui au passage fait bon compte des aspects de la nature, des aspects de la biodiversité, puis peut-être de la beauté, etc., et qui en plus n'a pas de garantie de succès, puisque aucune de ces techniques, ou très peu, manifeste la possibilité de produire autant d'énergie qu'on en a besoin sans effet sur le climat. Et puis, la troisième solution, c'est de se dire, oui, on va utiliser les technologies, on n'est pas contre les technologies, mais peut-être qu'on va raisonner avec des technologies plus douces, peut-être, pas mettre tout le paquet sur l'industrialisation et le massif. Et puis surtout, il faut que ce soit les comportements qui changent, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur nos besoins en énergie et qu'on se dise, est-ce qu'on a besoin d'autant d'énergie et est-ce qu'une large part de la solution, c'est pas dans nos changements de comportement. Mais dire changer de comportement, ça veut dire changer réellement de mode de vie, quoi. Ça veut dire, non, le dernier iPhone ici, j'en ai pas besoin. L'écran plat au mur, on peut s'en passer. Le micro-ondes, après tout, on peut vivre sans. Le lave-vaisselle, c'est pas très utile, etc., etc.
Mais là, on retombe dans quelque chose qui est souvent reproché à l'écologie politique, c'est de dire c'est chacun qui individuellement fera sa part de goutte d'eau, la part du colibri, comme l'appelle Pierre Rabhi, pour changer les choses. Le problème, c'est que malheureusement, s'il suffisait de faire ça, ça pourrait marcher, mais face à nous, il y a quand même des oligarques, je sais que la question vous travaille, il y a des multinationales, des lobbies, et il y a toutes sortes de groupements d'intérêts capitalistes qui essayent de nous pousser à consommer, à acheter le dernier iPhone 6, à acheter une nouvelle machine à laver, en les rendant même obsolètes volontairement pour qu'on en rachète tous les 2-3 ans. Et donc, comment combattre politiquement ce système-là et pas uniquement chacun en faisant sa petite part?
Oui, j'ai pas d'accord, tout à fait. Mais d'abord, j'ai pas tout à fait fini la proposition.
Pardon.
Et puis surtout, j'ai pas. Non, mais c'est normal. J'ai pas seulement dit que c'était chacun devait le faire. Ou alors je me suis mal exprimé. Mais c'est un changement global de comportement et de niveau de vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement. Il faut soi-même se mettre dans la disposition d'esprit de dire, ça serait quoi la vie sans iPhone, sans écran plat, sans lave-vaisselle, sans micro-ondes, sans voiture, etc. Mais se dire qu'effectivement, ces changements-là, ils sont profondément culturels. C'est-à-dire que même si les uns et les autres peuvent changer, si chacun dans sa vie, on peut changer, et après tout, c'est une dimension qui n'est pas inutile et qu'il ne faut pas oublier, une société, elle change culturellement ensemble. Et c'est ça qu'un petit peu que je voulais dire quand je parlais de niveau de vie, de mode de comportement. Après, je suis tout à fait d'accord avec vous, et il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu global, c'est que derrière cette critique du besoin et de la consommation, il y a qu'est-ce qui fait que culturellement on se retrouve dans des situations où on considère que le bien-être, eh bien, il suppose des iPhones, tout cet appareillage, ces gadgets, ces machines qui nous entourent et qui nous non seulement nous pourrissent la vie, mais pourrissent le climat et la nature. Et là, évidemment, on arrive à une question politique, mais ce que je voulais dire, on va en dire un mot, mais je vous pense maintenant qu'il ne faut pas se résumer seulement à la politique et qu'il faut toujours considérer la question du changement culturel. C'est pour ça que moi j'insiste beaucoup quand même pour dire, oui, on va parler du capitalisme, on va parler des multinationales, on va parler de la publicité, on va parler de l'oligarchie, mais qu'en même temps, il faut accepter l'idée d'un changement culturel profond et qui consiste à dire notre consommation matérielle doit diminuer. Alors après, le deuxième moment de la discussion, c'est effectivement de dire, on est dans un système qui crée ses besoins, dans un but de maintenir une situation d'inégalité profonde, dans un but d'accumuler du profit, dans un but d'accumuler du capital de manière discontinue. Ça s'appelle le capitalisme et qui a pris une forme politique qui s'éloigne de plus en plus de la démocratie, qui est le régime oligarchique, c'est-à-dire une situation où un petit nombre de gens décident pour les autres et organisent la société et l'application de leur pouvoir pour maintenir leurs privilèges. On est clairement dans cette situation-là. Et c'est clair que si parler du climat sans mettre en cause le capitalisme, les multinationales, les inégalités profondes, on passe complètement à côté de la plaque. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça doit marcher sur les deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut dire, oui, une analyse politique et une lutte politique profonde, mais aussi un changement culturel absolument indispensable et qui, quelque part, nous concerne chacun, j'allais pas dire en tant qu'individu, mais en tant que personne humaine libre de ses choix.
On parlait tout à l'heure de la conférence de Copenhague qui avait été un sacré fiasco. Moi, j'ai un autre souvenir, une année après, c'était ce qui s'est passé en Bolivie. Ça s'appelait la conférence mondiale des peuples pour les droits de la terre-mère. Et où c'était plutôt des mouvements issus de pays dits du Sud, d'Amérique latine, d'Afrique, ou des peuples autochtones nord-américains, indiens, amérindiens. Et ils s'étaient là-bas, on ne discutait même pas de la nécessité ou pas de changer les choses, mais de savoir comment on prend les outils concrets avec un tribunal de justice climatique, un référendum mondial sur les émissions de gaz à effet de serre, des choses comme ça. Est-ce que, entre guillemets, le salut ne viendrait pas aussi des mouvements sociaux pour la justice climatique, mais pas forcément ceux du monde occidental?
Alors, si en partie, c'est pour ça que Copenhague n'a pas été tout à fait un fiasco. J'ai dit que ce n'était pas un échec total, parce qu'il s'est passé quand même quelque chose à Copenhague, même si c'est un petit peu lointain maintenant, de tout à fait extraordinaire. C'est d'abord qu'il y a une présence des citoyens et des gens qu'on n'avait jamais vu dans aucune de ces conférences. Et ça, c'est très, 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 très fort. Une manifestation de 100 000 personnes très actives, beaucoup d'activistes, beaucoup de militants, c'était important. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi intellectuellement le moment où on a, en quelque sorte, produit le concept ou l'idée de justice climatique, c'est-à-dire qu'on a relié la question écologique et la question de la justice sociale. Et maintenant, l'idée de justice climatique est devenu vraiment le cœur de la réflexion, en tout cas des mouvements citoyens et des mouvements écologistes. Et ça, c'est extrêmement important, c'est qu'à Copenhague, on a vraiment, me semble-t-il, abattu la frontière qui opposait d'un côté les écologistes qui s'occuperaient des petits oiseaux, et puis de l'autre les militants sociaux qui s'occuperaient des humains et des travailleurs. Ben non, les deux choses vont ensemble, et quelque part, le besoin du travailleur, du salarié ou de l'humain, c'est la même chose que le besoin et des petits oiseaux. Je prends des images très simples, mais je crois que fondamentalement, c'est ça. Et après, ça a été confirmé, comme vous l'avez dit, dans cette réunion en Bolivie, et qui après a un peu perdu de sa force pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Bolivie, le régime politique bolivien n'a pas été très clair sur les questions du climat, par exemple, et de l'environnement en général. Le président Evo Morales a commencé à dire, oui, on va exploiter le pétrole, on va exploiter le lithium, etc. Il s'est même opposé avec avec des tribus indiennes, alors que lui-même est un indien, qui refusaient le passage d'une autoroute qui permettrait plus d'exploitation de matières premières. En Équateur, c'est un petit peu pareil. Au Venezuela, ben, le Chavez est mort et était quand même dans cette ambiguïté que le Venezuela est un très gros producteur de pétrole. Donc tout ce mouvement qui avait rebondi en Amérique latine s'est un petit peu effacé. Et par ailleurs, le mouvement écologiste international climatique a perdu beaucoup de sa force, à la fois par la déception de l'échec de Copenhague, et puis aussi parce qu'est arrivée cette crise financière à partir de 2008 qui a enlevé, enfin, a poussé un très grand nombre de gens à oublier la question du climat et d'écologie pour ne plus se préoccuper que de la question de l'économie et de l'emploi. Ce que demeurant est tout à fait légitime, là aussi au niveau personnel, qu'on soit préoccupé de son emploi quand on est au chômage, ça me paraît l'évidence absolue. Je suis moi-même chômeur, donc j'y pense régulièrement. Mais voilà, tout ça a joué ensemble pour faire en sorte que c'est plus trop en Amérique latine, malheureusement, que la dynamique, me semble-t-il, est la plus importante.
Et du coup, donc là, on est à un an à peu près des rencontres, la conférence de Paris, donc qui fera suite à Copenhague. Est-ce que devant l'échec qu'il y a eu à Copenhague, qui était aussi dû au fait qu'il y avait certains pays riches qui refusaient absolument toute réduction de leurs émissions, notamment les États-Unis, et qui en gros refusaient complètement ce que demandaient parfois d'autres pays, est-ce qu'on ne s'achemine pas à nouveau vers un échec retentissant, avec une mobilisation forte au départ? Est-ce qu'il faut attendre quelque chose, en fait, de la conférence de Paris?
Oui. Alors, une fois de plus, ce n'est pas un échec total. C'est-à-dire, il y a des choses qui étaient sorties de Copenhague et des quelques conférences qui ont suivi, et notamment l'idée que ce seuil de 2 degrés de réchauffement de l'atmosphère moyenne de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle ne devait pas être franchi. C'est devenu maintenant un lieu commun, mais il y a encore quelques années, ça n'était pas le cas. Et donc, je crois que ça avait été acté à Copenhague, dans la déclaration de Copenhague, et ça, c'est quelque chose d'important. Déjà, quand vous définissez un cadre de pensée commune, pour l'ensemble des pays de la planète, c'est vraiment des pas importants qui sont franchis. Après, qu'est-ce qui s'était passé à Copenhague? C'était pas seulement le refus des États-Unis de réduire fortement les émissions qui est en cause, c'est traditionnel de la part de la première puissance mondiale, mais c'était le jeu de ping-pong entre la Chine et les États-Unis. La Chine, en 2009, se sentant déjà une puissance de même niveau que les États-Unis, et ces deux superpuissances disant en gros, eh ben moi je ne bouge pas, si toi tu ne bouges pas. Alors l'un dit, je retire un tout petit truc, et donc l'autre dit, si tu ne retires qu'un tout petit truc, moi je ne retire un tout petit truc. Et là, on a été bloqué en fait en 2009 dans cette confrontation de deux superpuissances. Ce qui s'est passé, et en fait on est toujours dans cette situation-là, c'est-à-dire que la négociation globale, elle se structure sur cette opposition ce dialogue, c'est une opposition dialogue entre ces deux superpuissances, et d'autant plus que l'Europe, qui avait un rôle extrêmement dynamique pendant toutes les années 90 et 2000 sur la question du climat, a énormément perdu de son allant et de son énergie. Donc on revient fondamentalement sur cette relation de dialogue, concurrence, hostilité et coopération entre la Chine et les États-Unis. Ceci dit, il s'est passé un phénomène extrêmement important depuis, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu, ont continué à croître de manière importante, et que la Chine, et aussi dans une large mesure malgré tout, les États-Unis, sont en train de prendre conscience que le changement climatique et la pollution en général a un effet désastreux sur la vie de leurs concitoyens, très souvent, et aussi sur l'avenir de l'équilibre économique et de l'équilibre social. Ça, c'est très clair en Chine, on le ressent par un très grand nombre de signaux de politique, de rapports, etc. C'est très clair aussi aux États-Unis, où même s'il y a un climato-scepticisme qui est encore très important, il y a au niveau d'une très large part des élites, et de la classe dirigeante, la perception que le changement climatique aura des conséquences importantes sur les États-Unis. Et malheureusement, c'est l'évolution de la réalité qui fait évoluer le jeu des acteurs, c'est-à-dire que à mesure que la situation s'aggrave, les acteurs ne peuvent plus faire comme si le problème n'existait pas. Je pense que la Chine et les États-Unis vont évoluer ensemble, pas assez rapidement à mon sens, mais d'une manière assez positive quand même.
Et la France dans tout ça, qu'est-ce que de nos petits 60 à 70 millions d'habitants, on peut faire pour faire évoluer ce mouvement pour la justice climatique?
D'abord, non, 65 millions d'habitants d'un pays qui reste, qui a un potentiel important, qui reste riche, qui reste quand même une puissance militaire pas tout à fait négligeable, on le voit puisque les armées françaises sont maintenant au Mali, au Centrafrique,
En
vont
Irak.
bombarder l'Irak sans d'ailleurs qu'il y ait eu une consultation du Parlement ou des citoyens français à cette époque, à cette propos. Donc non, ça n'est pas un pays absolument négligeable. Ce qui est très triste, c'est que il ne pèse pas. Il n'y a pas de vraie volonté. Alors Monsieur Hollande fait toujours des beaux discours, Madame Royal fait des beaux discours, Monsieur Fabius veut faire des très beaux discours. On fait des très beaux discours, mais dans la réalité, il n'y a absolument pas la volonté de peser vraiment en engageant le pays dans une voie écologique de réduction claire des émissions de gaz à effet de serre qui passe, mais ça. C'est très difficile, mais en tout cas, il n'y a pas l'impulsion politique pour le faire, qui passe par un changement global de culture de la consommation matérielle et qui passe aussi par la réorientation de notre activité économique dans des voies différentes. Et ça, malheureusement, à part quelques effets de manche, il n'y a pas d'action réelle qui se mène par ces gouvernements et par ce pays. C'est très dommage parce que je pense que la grande majorité de la population serait en fait assez sensible à un discours positif, à un discours écologique qui lui serait tenu, à condition qu'on montre bien que l'écologie, c'est associé non seulement à une stratégie politique d'évitement du risque climatique global, mais aussi qu'il y a des possibilités de création d'emplois et d'une économie beaucoup plus juste et beaucoup plus prospère sur le fond que la voie dans laquelle on continue à nous entraîner.
Et puis éventuellement avec des questions aussi de décroissance, où on choisit qu'est-ce qu'on produit et qu'est-ce qu'on fait de nos productions et pourquoi on le produit, et plus seulement produire uniquement comme ça, sans se poser ces
Oui.
questions.
Oui, moi je ne sais même pas s'il faut employer le terme de décroissance parce que ça fait peur à beaucoup de gens. Moi personnellement, je ne l'emploie pas parce que je pense qu'il faut sortir de l'idéologie de la croissance. Alors si vous sortez de l'idéologie de la croissance, ce n'est pas pour employer un mot qui se réfère à la croissance, qui est celui de la décroissance. Mais bon, ça c'est pas un débat. Moi j'ai beaucoup d'amis décroissants, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais je pense plutôt qu'il faut poser clairement la question de la baisse de la consommation matérielle. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces iPhones? Est-ce qu'on a besoin d'avoir tous ces matériels? Alors, en plus, qui? Parce que on est en plus dans ce paradoxe que il y a de plus en plus de nos concitoyens qui s'appauvrissent. Hein. Il y a près de 30 à 40% de la population qui sont en situation très précaire, très difficile, et dont le niveau de vie diminue, alors que celui des 5% ou 10% les plus riches continue à s'élever, ce qui est quand même ahurissant. Et puis pour toutes les classes moyennes, il faut leur poser clairement la question, pourquoi est-ce qu'on continue à avoir toutes ces consommations? Je vais prendre un exemple très, très clair, qui sera un exemple collectif. De plus en plus dans les gares, par exemple, on voit ces écrans publicitaires avec des télévisions. C'est des écrans de vidéos, de pubs, et ça consomme énormément d'énergie. Est-ce qu'on a besoin de consommer de l'énergie dans les gares ou dans les métros ou dans les aéroports pour nous vendre de la publicité qui va nous faire consommer encore plus? Ben voilà typiquement le genre de choses où il n'y a pas besoin de parler de croissance ou de décroissance, mais d'utilité ou d'inutilité. Donc je pense que beaucoup de gens seraient d'accord pour dire il vaut mieux investir dans la bonne éducation pour nos enfants, pour les jeunes, dans un bon système de santé, dans un bon système de culture aussi, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la culture et autrement, autre chose que Star Academy ou je ne sais quelle émission de télévision, plutôt que d'investir dans des écrans publicitaires, dans des écrans plats, dans des machines à laver, la vaisselle, etc.
Et du coup, bah justement, pour discuter de toutes ces questions, parce que le débat reste encore posé, notamment au niveau des décideurs politiques, Reporter a décidé de lancer le débat avec les rencontres de reporters et une première qui va se tenir le lundi 6 octobre, l'écologie au cœur de la reconstruction politique. Alors il y aura tous les dirigeants politiques de la gauche, on pourrait dire, en tout cas du Parti pour la décroissance, à même certains dissidents du Parti socialiste. Pour discuter de tout ça se passera donc le 6 octobre au théâtre de Jazet à Paris. Qu'est-ce que c'est l'objectif de ces rencontres assez rapidement?
L'objectif fait partie des résultats électoraux très inquiétants du printemps dernier, qui ont vu la place importante qu'a pris le Front National en termes relatifs. Et ce qui nous frappe peut-être encore plus, c'est l'abstention absolument énorme qui s'est manifestée au printemps. Et je crois que ce qui est grave, c'est qu'il y a une passivité, il y a une désaffection des citoyens pour la politique, il y a une espèce de fatalisme en disant « c'est même pas la peine que j'aille voter, on peut rien changer, etc. » Et ça, c'est extrêmement grave parce que ça nous emmène vers des voies de volontarisme autoritaire, voire pire, d'une extrême droite extrêmement dangereuse.
Et qui n'est pas spécialement écolo en plus.
Pardon ?
Qui n'est pas spécialement écologiste non plus.
Ah bah, en plus, c'est... Voilà, non, ni M. Valls avec ses mâchoires carrées et ses policiers qui frappent au Testet ou ailleurs, ni Mme Le Pen n'ont un quelconque intérêt pour l'écologie profondément. Et donc, ce qu'on a décidé de lancer avec nos tout petits moyens, parce que reporter, on est quand même un petit média, mais je crois que de temps en temps, il faut prendre le risque d'ouvrir de nouveaux chemins, c'est de dire à des représentants d'Europe Écologie Les Verts, de Nouvelle Donne, du Parti de Gauche, du Parti de la Décroissance, de Ensemble, du PS Frondeur, de dire, écoutez, il faut qu'on se réunisse, il faut que vous appreniez à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à coopérer, non pas pour faire un énième programme commun, manifeste, tribune, parti, coalition, mais travailler ensemble, coopérer pour montrer qu'on peut faire autrement, qu'il y a d'autres solutions que le fatalisme, que l'autoritarisme, que le productivisme, etc. Et le repliement sur soi. Et dire, effectivement, c'est par l'écologie, une nouvelle vision de l'écologie, que l'on va pouvoir renouveler la politique, reconstruire la politique, la refonder. Et alors après, mais c'est un long discours et je ne veux pas le faire ici. Et donc c'est la démarche qu'on entreprend sur le site et dans cette rencontre au Théâtre de Jazet à Paris le lundi 6 octobre et qu'on va filmer bien sûr hein, pour que les très nombreuses personnes qui ne pourront pas venir et par exemple du côté de Toulouse puissent voir ce qui se sera dit, ce qui se sera réfléchi pendant cette soirée sur Internet et sur la télévision. Et pour dire aussi, parce qu'après tout, c'est important de dire on est en bonne humeur, à la fois le moment est grave historiquement, mais je dirais la pêche et la bonne humeur et l'enthousiasme, il est de notre côté. C'est pas parce que la situation est grave qu'on met les bras ballants, au contraire, on a vraiment envie d'y aller, de se battre, et puis aussi dans une bonne ambiance, donc il y aura un bon groupe de ska et de reggae, une bande magnétique qui nous aidera à passer une très bonne soirée.
Merci beaucoup Hervé Kempf pour votre disponibilité. Et puis donc, à bientôt sur reporter.re.net.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir. Once more laid down.